Décryptage. Anne Corpet.
Le président Cyril Ramaphosa, réélu vendredi par l'Assemblée nationale pour un deuxième mandat, devrait donc être investi mercredi à la tête de l'Afrique du Sud. Pour conserver la présidence, l'ANC, qui n'a obtenu que 40% des voix aux dernières législatives, a dû négocier un accord de coalition avec des partis rivaux. Pour la première fois en 30 ans, le parti hérité de Nelson Mandela partagera notamment le pouvoir avec l'Alliance démocratique. Ces deux camps historiquement opposés vont donc devoir s'entendre. Ils devront aussi composer avec une nouvelle opposition cristallisée autour de Jacob Zuma, ex-chef de l'État, devenu la troisième force politique du pays. Lui dénonce un retour des forces de l'apartheid à la tête de l'Afrique du Sud. Et pour parler de cette nouvelle page politique qui s'ouvre en Afrique du Sud, nous sommes en studio avec vous, Francis Kpatindé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien observateur de l'ONU en Afrique du Sud et enseignant à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous.
Nous sommes déjà passés par là, comme en 1994, quand nous avons cherché à unir notre pays et à engager la réconciliation. Nous y voilà encore, invités par le vote des électeurs, à travailler ensemble pour s'assurer que nous répondons aux problèmes auxquels ils font face. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que je m'engage à faire en tant que président d'Afrique du Sud.
C'était Cyril Ramaphosa vendredi devant l'Assemblée dans la foulée de sa réélection au micro de Romain Chanson. Alors dans sa déclaration, le président fait référence au gouvernement d'Union nationale composé par Nelson Mandela à la suite des premières élections multiraciales du pays il y a 30 ans. Est-ce que c'est une comparaison pertinente ?
Je ne crois pas du tout, parce qu'en 1994, on sortait d'une longue nuit noire. On sortait de plusieurs décennies de lutte contre un système abject, l'apartheid. Et au bout, il y a eu la libération de Mandela, l'élection de Nelson Mandela et la formation d'un gouvernement d'union nationale qui était déjà, dont l'articulation était arrêtée avec la communauté internationale, les Nations Unies, l'OUA à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore l'Union africaine. Donc, et dans ce gouvernement, effectivement,
Frédéric
de Clercq était le deuxième vice-président. Vous aviez quelqu'un que les militants noirs abhorraient comme Pic Botta, qui était membre du gouvernement, mais à ses côtés, vous aviez le patron du Parti communiste sud-africain, Jo Slovo, qui est resté que 9 mois, puisqu'il est mort.
Donc, rien à voir avec la situation
actuelle. La situation actuelle est presque, je dirais, normale. C'est une élection, une de plus. Et puis, bon, il y a un compromis politique qui s'est trouvé. Parce que l'ANC a perdu sa majorité absolue. C'est une première depuis 1994. Mais l'ANC est quand même restée maître du jeu, puisque c'est l'ANC qui a invité d'autres partis à la table des négociations.
Mais cette référence à 1994 dans la bouche du chef de l'État, ce n'est pas quand même une forme d'aveu d'échec pour l'ANC, une manière de reconnaître finalement que 30 ans après la fin de l'apartheid, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée dans le pays, notamment en termes d'inégalité.
C'est vrai qu'en termes d'inégalité, en termes de gestion au quotidien, l'ANC n'a pas bien géré. Peut-être les premières années, le premier quinquennat, le deuxième aussi. Mais après le deuxième quinquennat, tout a commencé à s'écrouler. Il y a donc une désaffection des troupes de l'ANC, beaucoup de désillusions. Vous savez, en termes de la criminalité, le fait que les gens ne trouvent pas d'emploi et surtout la corruption. La corruption qui a été portée au sommet par Jacob Zuma.
Et c'est ces conditions difficiles pour la population sud-africaine qui expliquent cet échec relatif de l'ANC.
Absolument. Vous savez, en 1994, il y avait de la magie dans l'air. Les gens, il y avait beaucoup d'espérance. Et ce n'était pas que les Noirs. C'était les Indiens, les Métis, les Blancs, libéraux en tout cas, qui pensaient qu'on allait se projeter dans une nouvelle société de croissance, de création d'emplois, les hôpitaux, surtout l'école et tout. L'Afrique du Sud, il faut le reconnaître, compte 5 des 10 meilleures universités africaines aujourd'hui. Mais l'éducation de qualité ne touche pas tout le monde. Les soins de santé ne touchent pas tout le monde. Et la corruption a été portée.
Et le chômage touche 33% de la population active.
Surtout les jeunes noirs.
Et il y a des coupures d'électricité permanentes.
Voilà.
40% des richesses du pays sont dans les mains de 1% de la population. On ne peut pas dire que le bilan soit
Oui, c'est vrai que les réformes de fond qui étaient attendues n'ont pas été faites. Même si on met de côté la corruption et la redistribution des terres. Je vois d'ailleurs que le président Ramaphosa a réinscrit ça à l'ordre du jour dans le prochain gouvernement qui va se passer.
Alors, justement, ce prochain gouvernement, il va être composé avec l'Alliance démocratique, la DA, qui a été la voix la plus critique de l'ANC au cours de ces 20 dernières années.
Oui.
Comment ces deux partis peuvent-ils cohabiter? Est-ce que, par exemple, justement, sur cette question de la redistribution des terres, l'Alliance démocratique peut se mettre d'accord avec l'ANC?
Alors, l'Alliance démocratique a commencé d'abord un peu mal, parce qu'avec des anciens de l'apartheid, et puis ce parti s'est séparé d'eux. Depuis l'élection de son nouveau patron, donc John Steenhuisen et tout. Et donc, c'est un parti de libéraux. C'est des gens qui croient au marché économique, mais qui quand même combattent le racisme. Les discriminations, ils sont contre. Hein, c'est pas,
mais ils restent largement perçus comme le parti des Blancs.
C'est la perception. Parce que la plupart de leurs dirigeants, depuis 2000, où l'Alliance sous ce nom-là, sous cette configuration, s'est mise en place, sont des Blancs. Il y a eu l'épisode de Mounsi Maman, et qui a été le premier Noir donc, président de ce parti. Mais en 2019, après l'échec relatif de l'Alliance démocratique, il a été non pas exclu du parti, mais mis de côté et remplacé par John Steenhuisen.
Et qui sont ces électeurs? Est-ce que ce sont en majorité des Blancs? Et comment ils accueillent cette coalition avec l'ANC?
Alors, si c'était que des Blancs, ils ne monteraient pas à crescendo, vous voyez. Et en fait, ils ont un électorat qui est assez métisse, de ce qu'on appelle dans le Cap occidental, Western Cape, et aussi au KwaZulu-Natal, d'où est originaire le leader de ce parti. Donc, ils ont quand même des fiefs. Ils sont solides au moins dans trois directions. Western Cape, KwaZulu-Natal et Gauteng. Gauteng, c'est la région qui réunit la capitale économique Johannesburg.
Et ces électeurs sont d'accord pour composer avec l'ANC, parce que sur le plan des idées, l'Alliance démocratique est plutôt libérale quand l'ANC prône une plus grande redistribution des richesses, par exemple.
Oui, les gens veulent aussi essayer autre chose. Vous savez, bon, 30 ans d'ANC, même si le premier gouvernement n'était pas uniquement, exclusivement ANC, les gens veulent essayer autre chose, voir ce que ces libéraux proposent. Et puis, je pense que c'est un bon début que ça se fasse en tandem avec l'ANC. Et vous avez oublié de mentionner
J'allais le faire, troisième parti.
Le
parti nationaliste Zulu Inkatha, qui a obtenu 17 sièges au Parlement. C'est aussi d'ailleurs un rival historique important de l'ANC, plus conservateur aussi que l'ANC. Est-ce que ce parti Zulu va peser sur la politique du prochain gouvernement?
Ils vont peser parce qu'ils ont... ils ont leur fief également chez les Zoulous, au KwaZulu-Natal, ils sont tout puissants. Et c'est quand même un parti très conservateur qui a été créé par le chef Buthelezi, donc qui a été un rival, mais dur, même un ennemi de Nelson Mandela. Mais on l'a intégré au gouvernement qui a suivi la fin de l'apartheid. Et donc, ils ont appris à gérer. Mais de temps en temps, c'est un parti assez velléitaire. Et c'est un parti également... C'est peut-être l'un des rares partis ethniques de l'Afrique du Sud.
Alors, il reste la question donc, de la formation de ce gouvernement. Il y a de nombreux Sud-Africains qui continuent d'exprimer leur scepticisme concernant l'accord qui a été scellé vendredi. Je vous propose d'écouter ces électeurs interrogés samedi par Romain Chanson. Ils s'interrogent ouvertement sur la stabilité de la coalition.
L'Alliance démocratique a tel programme, l'ANC a tel autre programme. Et maintenant, ils doivent trouver le juste milieu. Chacun doit faire preuve d'humilité pour faire progresser le pays.
L'ANC dit « la race est un sujet, il faut s'attaquer à l'héritage de l'apartheid ». La DA dit « la race n'est pas un sujet ». Et c'est là que le conflit peut advenir.
Les coalitions sont toujours difficiles, et celle-ci en particulier.
J'étais frappée par cette électrice qui semble dire que 30 ans après l'abolition de l'apartheid, le sujet de la race reste au cœur finalement du débat politique en Afrique du Sud. C'est le cas?
C'est le cas, parce qu'on ne gomme pas en 30 ans les discriminations, le racisme d'État, et ça, c'est pas possible de le gommer. Sinon, on aurait demandé aux Américains, à la fin de la guerre de sécession, en 1865, il a fallu attendre Lyndon Johnson, même pas Kennedy. Donc, après la mort de Kennedy, pour qu'il y ait les premiers décrets, pour essayer de forcer, pour que les gens soient intégrés. Donc, un siècle pour les États-Unis, je trouve que c'est un peu osé de demander 30 ans aux Sud-Africains.
D'accord. Alors, sur le plan politique, sur quel sujet cette coalition risque d'avoir le plus de mal à se mettre d'accord?
Alors, il ne vous aura pas échappé que Ramaphosa a été élu avec 283 voix. 283 CH. Voix, c'est 20 de plus que la totalité des voix, des sièges, des trois partis qui lui soutiennent son action. Ça veut dire qu'au sein des petits partis, il y a des négociations possibles. Et le gouvernement... Et je peux vous assurer que le gouvernement ne sera pas composé que des trois. Il y aura d'autres partis, et ils le disent d'ailleurs clairement dans un document qui est sorti, c'est aujourd'hui ou hier, et où ils disent clairement que même après la formation du gouvernement, et l'entrée au gouvernement sera ouverte aux autres partis.
Mais dans son programme, par exemple, l'Alliance démocratique voulait abandonner les politiques de discrimination positive. Vous pensez que ça risque d'être...
Vous savez, c'est à l'ouvrage qu'on reconnaît le maçon. Vous voyez, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, même l'Alliance démocratique, qui est quand même un parti relativement neuf, a beaucoup à apprendre de la politique parce que son leader n'a jamais exercé de pouvoir, je parle gouvernemental. Il a eu des postes au niveau local, KwaZulu-Natal, il a eu au plan national, mais il faudra apprendre à gérer. Vous savez, il n'avait que 14 ans quand Mandela a été libéré, 18 ans quand Mandela a été élu. Donc, il est relativement jeune puisqu'il n'a que 48 ans aujourd'hui.
Et est-ce que l'attribution des postes au sein du gouvernement, ça permettra d'avoir une idée un peu plus précise de la ligne qui sera tenue?
Moi, je pense que sous les questions de la défense nationale, des affaires étrangères...
On en reparlera un peu plus tard.
Oui, donc ça... Et je pense que le gouvernement sera balancé. L'ANC aura la part belle, mais je pense que l'Alliance démocratique pour les postes économiques, les postes sociaux aussi, parce qu'ils ont envie d'élever le niveau des gens, de créer des emplois. Peut-être qu'ils vont hériter des postes techniques comme l'emploi, comme peut-être pas les finances, mais l'économie et tout ça.
Alors, le coup décisif lors des élections du mois dernier a été porté par Jacob Zuma. Son nouveau parti, le MK, a fortement entamé le soutien de l'ANC. Et à l'issue de l'annonce de l'accord de coalition, dans une déclaration lue par le porte-parole de son parti, Jacob Zuma a réaffirmé que le scrutin avait été truqué. Il a dénoncé une alliance du chef d'État avec les partisans de l'apartheid et a annoncé son intention de combattre cette coalition. On écoute le porte-parole du parti de Jacob Zuma.
Ensemble, avec le groupe parlementaire progressiste et le peuple, nous devons lutter contre l'accord de trahison entre l'ADA et sa marionnette Ramaphosa par tous les moyens nécessaires et dans le respect de la loi. Il n'y a pas de temps à perdre. Ceux d'entre nous qui sont encore membres de l'ANC continueront à utiliser tout l'espace encore disponible au sein de l'ANC pour dénoncer les agents du monopole capitaliste blanc qui veulent ramener notre pays à l'apartheid. Ils seront vaincus.
They will be defeated.
Et lors de cette déclaration qui a duré une quarantaine de minutes, le porte-parole de l'ex-président Zuma n'a pas cessé de comparer le parti de l'Alliance démocratique aux partisans de l'apartheid. Est-ce que c'est justifié? Et surtout, est-ce que ce genre de diatribe ne risque pas d'enflammer le climat, voire la rue?
Moi, je pense que c'est moins justifié aujourd'hui de dire que l'Alliance démocratique est à ses débuts, ce parti a fricoté avec les anciens de l'apartheid, ce qui était énorme. Et puis aujourd'hui, c'est un parti neuf. C'est un parti où il n'y a pas l'once d'un racisme dans le discours. Vous pouvez relire le discours de Hélène Zille, les discours de Steen Huisen. Il n'y a pas l'ombre d'un racisme. Et d'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir, parce qu'il y a une Cour suprême, il y a des institutions en Afrique du Sud qui veillent à ce que les gens disent, surtout ceux qui ont des mandats publics. Jacob Zuma, vous savez, c'est la rançon de tous les populistes. C'est de
voilà, j'allais vous poser la question. Comment expliquer finalement sa réussite, puisque son parti est sorti troisième force politique du pays. Or, son bilan est peu reluisant, il est condamné pour outrage, etc. La corruption était endémique sous sa présidence. Comment se fait-il qu'il ait réussi en trois mois comme ça à hisser son parti à la troisième place?
On oublie souvent que Jacob Zuma a été patron des services en Afrique du Sud. On oublie qu'il a été quand même président, il a fait plus de mandats, il a même entamé le second et puis après il a été exclu du jeu. Il est doué, c'est un politicien doué, c'est un populiste. Et par les temps qui courent, ça marche beaucoup de promettre la lune aux gens.
Et pas seulement en Afrique du Sud.
Et pas seulement en Afrique du Sud. Et on s'entend bien. Mais c'est comme ça. Et ça marche parce que les gens le croient. Il a son fief. Il sait parler aux gens. C'est quelqu'un qui peut s'arrêter au marché, se mettre par terre et danser, marcher avec. Ce qui n'est pas le cas à tous les apparatchiks de l'ANC. Donc, il est plus proche de la population.
Et il faut aussi compter avec l'opposition du Parti des combattants pour la liberté économique, l'EFF, de la gauche radicale, qui a 39 sièges au Parlement. Alors eux, ils prônent la confiscation des terres aux Blancs, la privatisation des secteurs clés de l'économie. Est-ce qu'ils vont s'allier à Jacob Zuma pour tenter de faire échec à ce futur gouvernement de coalition, pour tenter de reconfigurer le paysage politique au profit de partis plus radicaux, plus populistes, justement.
Les partisans de Julius Malema pourront s'allier au plan tactique avec ceux de Jacob Zuma au Parlement, parce que c'est ça. Et de toute façon, il faut en Afrique du Sud une opposition. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays ordinaire, c'est un pays, c'est une démocratie. Et ça, personne ne le nie. Et les institutions fonctionnent, et donc il faut un pouvoir fort, il y a une majorité qui est confortable, parce que si on compte 263, c'est déjà beaucoup, 283 pour l'élection de président, et il faut une opposition aussi forte, et cette opposition, assurément, en tout cas dans les 5 prochaines années, sera animée par à la fois Jacob Zuma, les partisans de Jacob Zuma, et ceux de Julius Malema.
Alors, vous évoquiez la politique étrangère il y a un instant, on va en parler, parce que les partisans de Ramaphosa louent le rôle qu'il a joué dans l'amélioration de l'image de l'Afrique du Sud sur la scène internationale. C'est vrai que le pays s'est affirmé. Est-ce que la politique étrangère, ça a pu être un des points de négociation entre Cyril Ramaphosa et l'Alliance démocratique?
Alors, la politique étrangère, ce sera du ressort du président de la République, Cyril Ramaphosa et tout. Il y aura des accommodements. Mais vous savez, la politique étrangère d'Afrique du Sud, elle est quasiment, on dirait que c'est scellé dans le marbre, parce que c'est adossé à un programme de l'Union africaine, par exemple, qui s'appelle l'agenda africain de 2063. C'est partie intégrante.
Oui, mais l'Alliance démocratique, elle est favorable à l'Occident. Est-ce que et également sceptique à l'égard des BRICS, groupe où l'Afrique du Sud joue un rôle essentiel. Oui. Est-ce que le pays pourra toujours s'ériger en champion de ce qu'on appelle le Sud global s'il y a cette Alliance démocratique?
Moi, je crois que oui. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays, je dirais, capitaliste. Ça, c'est un pays libéral, ça pourrait même être un pays occidental, si vous voulez, dans le style de fonctionnement, le mode de vie des gens et tout. Et ça, ils s'accommoderont, ils trouveront, ils sont intelligents, assez intelligents déjà pour avoir signé un accord. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de problème majeur. Il y aura des problèmes.
Même s'ils s'opposent sur, par exemple, des gros dossiers en cours.
Oui, il y a les manœuvres avec la Russie, par exemple.
L'Ukraine, oui, voilà.
Il y a les manœuvres avec la Russie. L'appartenance au Sud global, les Sud-Africains, y compris blancs, aiment bien dire qu'ils sont du tiers-monde et tout ça. Et ça les flatte, tout le monde. Et d'ailleurs, leur présence, vous savez, dans les ambassades, la présence des Sud-Africains blancs à l'Union africaine, quand ils sont là-bas, parfois, ils adoptent des positions qui peuvent surprendre. Vous voyez? Donc, de ce côté,
donc
ça
nous
là où ça posera problème, effectivement, c'est peut-être. De toute façon, l'affaire sur Gaza, elle est déjà instruite, elle est portée devant la CIJ, la Cour internationale de justice de La Haye. C'est déjà fait, on ne peut pas reculer. Et d'ailleurs, la communauté internationale semble faire droit à l'Afrique du Sud.
Merci beaucoup, Francisque Patindé. Je rappelle que vous êtes ancien observateur de l'ONU en Afrique du Sud, enseignant à Sciences Po Paris. Merci à Fabrice Violet qui a réalisé cette émission et à Éléonore Krenik qui m'a aidé à la préparer.